Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Vous en rêviez, Radio Présence l'a fait, une émission de cinéma pour guider vos pas vers les salles obscures. Mais que dis-je, cette émission existe déjà sur notre antenne, animée par le célèbre Louis-Marie Soler. Non, plutôt une émission pour les timides, pour ceux qui aiment être coucounés, accompagnés quand ils vont voir un film, aidés dans la constitution de leur bibliothèque de DVD pour avoir toujours sous la main un bon film, à voir seul ou en famille, pour s'évader, pour grandir et rêver. Cette émission, le grand écran de Vivante Église, je précise, donc émission désormais mensuelle, avec autour du plateau nos deux spécialistes cinéma maison, Louis-Marie Soler, producteur de N'oubliez pas l'ouvreuse, émission cinéma diffusée le mercredi à 19h et une chronique le matin dans le cadre de la matinale. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, pardon.
Paul Dima, également en plateau, bon connaisseur du 7e art, intervenant entre autres donc auprès des Cotopaïs, de spiritualité jésuite, et animant ou participant à l'animation de retraite cinéma, notamment à l'abbaye d'Ankalka. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Alors, on va réexpliquer un petit peu, parce que comme on en est juste à la deuxième de cette émission, qui donc, je le rappelle, est le premier vendredi de chaque mois, c'est donc une émission cinéma, comme son nom l'indique, dans le cadre de Vivante Église, avec trois entrées. On parle de trois films à chaque fois. Le premier film, c'est un film qui est à l'affiche. Le deuxième, c'est un chef-d'œuvre qu'on a appelé humaniste, et le deuxième, un chef-d'œuvre spirituel. Et le film à l'affiche, on en parle parce que vous animez donc un ciné-club, Paul et Louis-Marie. Peut-être pouvez-vous nous redire un mot pour ceux qui n'auraient pas suivi la première émission de ce qu'est ce ciné-club, ciné-parole.
Alors, rappel de l'épisode précédent, ciné-parole est né d'une frustration, celle de quitter une salle de cinéma sans un mot, comme si rien ne s'était passé. On s'est dit, c'est quand même trop dommage. Le film raconte une histoire qui nous interroge, qui nous fait réagir et tout. Et donc, on s'est dit, ça serait intéressant de prendre un moment pour et dire qu'est-ce qu'on a vécu en regardant le film, entendre la vie des autres, et puis rentrer par moments aussi plus dans la lecture de comment est construit le film, pourquoi c'est fait comme ça. Voilà, donc c'est né de ça.
Voilà, et donc la prochaine séance, c'est Ciné-Parole, c'est le 12 décembre prochain, à 14h30 et 20h30, et vous allez parler d'un film à l'affiche depuis ce mercredi, qui est donc La Villa. Alors je propose, comme à chaque fois, qu'on commence par écouter cette fois la bande-annonce, et puis après on se lancera dans la lecture et commentaire de ce film.
Ma petite sœur, ma toute petite sœur.
Je te présente Bérangère, ma trop jeune fiancée.
Enchantée.
Il est en haut dans sa chambre. On ne sait pas s'il nous reconnaît, mais si tu veux aller le voir.
Il y a un espoir de guérison?
Non. Je tente avec ce resto de continuer dans l'esprit de papa, avec des petits prix pour des gens qui ont peu d'argent. Mais là, j'y arrive plus.
J'étais génial, tes pâtes.
Je ne fais que les recettes de notre père.
Les recettes de notre père qui avait piqué à notre mère. Il ne savait pas faire cuire un œuf avant qu'elle meure.
Comment tu as fait pour rester si loin de nous?
S'il n'y avait pas eu ce partage avec lui, je ne serais pas revenu.
C'est un accident. Tu nous as traités comme des criminels. Tu sais même pas ce qui s'est passé.
On a retrouvé les restes d'un bateau, probablement des migrants. Faites attention, hein, ils peuvent être dangereux.
Dangereux?
Oh, regarde!
Ah ouais, il est beau!
C'est horrible, tous ces bons souvenirs.
À Angèle. Angèle.
Vous allez vendre vous aussi?
Je sais pas, on n'a pas encore parlé.
On les a trouvés dans la colline. Je ne veux te dire escapé du bateau.
Qu'est-ce qu'on fait?
Voilà, donc La Villa, sorti donc ce mercredi. Donc c'est un film de Robert Guédiguian, donc réalisateur français. auteur entre autres, enfin réalisateur donc de Marius et Jeannette, qui est son plus gros succès. J'ai vu là c'était plus de 2,5 millions d'entrées. Je vais donc résumer l'histoire de ce film et puis je vais vous laisser compléter. C'est donc deux frères et une sœur, Armand, Joseph et Angèle, qui se retrouvent après l'accident vasculaire cérébral de leur père. Ils reviennent un peu sur le lieu, ils reviennent sur leur lieu d'enfance et à cette occasion se ressurgit, c'est l'occasion un peu de faire le point à la soixantaine et ressurgit tous les souvenirs d'enfance, drames et autres qu'ils ont vécu. C'est quoi ? C'est un film familial, intimiste, une espèce de comédie dramatique, familiale, comment vous définiriez ça, Louis-Marie Foutu, le spécialiste ?
Oui, non, mais c'est ce que vous avez dit, c'est une comédie familiale, c'est un drame aussi, c'est tout à la fois, c'est Guédi Guian dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que il a fait 20 films, Robert Guédi Guian, et là, avec ce film, il revient assez fondamentaux, c'est ce qu'on peut lire partout, c'est ce qu'on entend dire aussi partout. C'est fondamentaux, c'est quoi ? C'est son pays, c'est là d'où il est originaire. Son pays, c'est l'Estac. L'Estac, c'est un petit village, c'est plus que ça, hein, mais c'est une calanque près de Marseille. Cette fois-ci, il est pas à l'Estac, mais il est juste à côté, c'est Lens-Méjean, c'est plus petit, c'est plus ramassé. Et il retrouve ses... Il est fidèle donc dans ses sujets, il est fidèle à sa troupe, que ce soit les techniciens et les acteurs. Il y a des techniciens qui le suivent depuis tous ses films, à savoir le chef opérateur, le preneur de son, ce sont toujours les mêmes. Et évidemment les comédiens, c'est même pas une troupe, c'est une famille. On retrouve les emblématiques Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin et Gérard Mélan.
Et sur l'histoire même, comment vous résumeriez autrement ou un peu plus complètement que ce que j'ai dit,
c'est
l'occasion d'un bilan.
C'est ça, ils se retrouvent, ils sont obligés de se retrouver parce que le père a eu un accident cérébral et c'est devenu un légume. Passons l'expression, mais c'est ça, ils ne savent pas s'il va survivre. Ils savent qu'il est vivant, mais ils ne savent pas s'il entend, il n'est pas capable de communiquer. Alors il va falloir prendre des décisions par rapport à cette maison, par rapport à leur vie aussi à eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça?
C'est le moment du passage un peu. Hein,
exactement.
C'est comme avant la mort de leur père. Et...
C'est tout à fait ça. Il va falloir ensemble faire un bilan de ce qu'on a fait, de ce qu'on veut encore pouvoir faire ensemble.
Alors je propose, avant de vous faire réagir, Louis... Oula, je vais y arriver. Paul Dima, qu'on écoute un autre extrait qui met un peu dans l'ambiance de ce film, c'est l'arrivée de la sœur Angèle. Donc elle descend d'un taxi dans cette presque crique, hein, c'est ça.
Oui, c'est ça, c'est une crique.
Une crique. Et puis elle va à la rencontre d'un de ses deux frères.
Pourquoi tu es venu ?
Le notaire a dit qu'il le fallait.
Tu es venu que pour ça ?
Oui. Mais je suis contente de te revoir. Toi, non ?
Voilà, donc c'est un peu court, mais parce que il y a beaucoup de silence au début de ce film, peut-être il y a beaucoup de pudeur aussi à se retrouver. Paul Dima, je disais, en fait, c'est comme une rencontre qui est un peu suspendue avant la mort du père. Est-ce que ça aide, en fait, c'est d'une certaine manière un peu la tension dramatique de fond qui fait que c'est particulièrement, on va dire, grave et que du coup, c'est l'heure des questionnements.
Oui, c'est l'heure des questionnements et on l'entend bien. Dans cette première scène de rencontre que c'est loin d'être chaleureux au départ. C'est-à-dire qu'il y a eu une famille un peu éparpillée qui se retrouve là à cause de l'accident et qui se confronte à son passé. Alors là, on entend Angèle qui est accueillie plus ou moins par Armand, qui maintient la tradition du père. C'est qu'en fait, entre tous les membres de la famille, les deux frères et la sœur, il y a plein de morts à régler. Il y a le point d'interrogation sur la survie du père, mais il y a aussi la mort du couple d'un des frères, la mort de est-ce que continuer le resto du père, ça va pas mourir, la mort d'une certaine façon de la calanque de leur enfance où c'était, voilà, et puis il y a des projets immobiliers qui la menacent, la mort d'une fille de Angèle par accident qui avait fait qu'elle était partie et qu'elle n'avait pas pu revenir depuis 20 ans. Donc, avec toutes ces morts et toutes ces incompréhensions, c'est un film qui est en même temps très, très optimiste parce que c'est pas que la nostalgie, c'est pas que les difficultés, mais ils vont progressivement réussir à reconstruire des choses et pas simplement par rapport à leur père.
Alors je cite quelques critiques, Ouest France, nostalgique sans être passéiste, dramatique sans être sombre, une magnifique leçon de vie finalement pleine d'espoir. Le journal du dimanche, un cinéma humaniste, bienveillant et nostalgique qui prend le temps de respirer et de se déployer avec intensité. Et les cahiers du cinéma, on est frappé dès le prologue par la précision et l'économie narrative qui noue le récit en quelques plans et qui fait tomber une émotion profonde, comme une chape qui ne quittera plus le film. Louis-Marie Soler n'aurait pas dit mieux, et pourtant, il faut lui donner la parole.
C'est difficile de passer après des commentaires comme
Louis-Marie
cela.
Louis-Marie Soler, pour Radio Présence, nous déclare.
Mais oui, mais tout ce qui est dit dans ces critiques et les remarques que vient de faire Paul sont tout à fait précises et exactes par rapport à la teneur de cette histoire. Oui, ils sont là, ces deux frères et cette sœur. C'est un bilan nostalgique, mais c'est pas qu'un bilan nostalgique. Oui, cet endroit était merveilleux. Il était l'image de la solidarité, cette crique, parce qu'ils étaient tous venus là construire leur petit cabanon pour vivre de la pêche. Et puis le temps a passé, et puis la pêche ne rapporte plus, et puis les uns après les autres, ces glorieux aînés ont disparu. Et maintenant, cet endroit, eh bien, il ne vit que deux ou trois mois par an. C'est-à-dire quand les touristes viennent, des privilégiés qui viennent, parce que maintenant, ceux à qui appartiennent ces cabanons gagnent plus d'argent en louant les cabanons deux mois ou trois mois par an qu'en les louant à l'année à quelqu'un qui vivrait sur place.
Alors, venons-y. Donc, le cinéma de Robert Guédiguian est, semble-t-il, un cinéma... Enfin, c'est vous qui me l'avez appris, Louis-Marie. Hein, je confesse qu'heureusement que j'ai des aides. C'est un cinéma... d'une certaine manière engagé, c'est-à-dire attentif à son milieu d'origine, puisque lui-même était le fils d'un ouvrier électricien, donc aux pauvres gens, comme disait Victor Hugo. Et c'est un cinéma, c'est une forme de cinéma engagé, même si ce n'est pas un cinéma politique. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Robert Guédiguian se fait le porte-voix de ceux qui ne peuvent pas parler, ceux qu'on laisse sans voix. Alors, il parle d'eux dans ses films. Il a voulu d'abord, c'était son intention première, se lancer dans la politique, puis il a trouvé qu'il ne pouvait pas dire grand-chose, et il a dit qu'il ferait du cinéma.
Engagé plutôt. Au Parti communiste.
Oui, il a commencé, et puis après, il a abandonné ce militantisme, il a laissé sa carte, et il a rendu sa carte, et il a fait du cinéma. Et c'est comme ça, maintenant, qu'on connaît Guédiguian, et en quelques films 20, je l'ai dit tout à l'heure, il a fait beaucoup de films là-dessus, sur ce milieu ouvrier qu'il connaît bien et qu'il sait décrire.
Alors justement, on va écouter un troisième extrait. C'est un moment, donc, ils sont dans le restaurant du père, hein, si j'ai bien compris, qui essaye de faire vivre l'un des fils, Armand. Et donc, il y a une scène autour du désir de faire vivre une tradition et quelque part l'honneur aussi d'une famille.
C'était génial tes pâtes. Tu fais seulement frire les artichauts avec de l'ail.
Et le persil. C'est la recette de notre père.
Je ne fais que les recettes de notre père. Que des pâtes. Ce restaurant restera bon et pas cher. Si je reste ici.
Les recettes de notre père qu'il avait piqué à notre mère. Il ne savait pas faire cuire un œuf avant qu'elle meure.
Oui, mais... Elle n'en a jamais planté un clou.
La division du travail dans le monde ouvrier entre les pères et les mères.
T'as pas connu ça, toi, hein ? Il y avait du personnel chez vous, non ?
Donc tu te souviens encore du monde ouvrier ?
C'est dans le sens, hein, ma princesse. Le monde ouvrier, je suis un héritier.
J'allais dire, ça aurait pu être un film de Ken Loach, mais non, je ne vais pas jouer aux spécialistes du cinéma, mais toujours est-il qu'en tout cas, il y a une manière en fait, très indirecte de dire justement aussi le sens de l'honneur de ces milieux et en l'occurrence de cet homme qui se bat pour une noble cause.
Oui, oui, Marie le disait très bien tout à l'heure. Et c'est vrai que le personnage du fils qui essaie de faire vivre dans le même esprit que son père le restaurant et qui se rend compte que il va peut-être être obligé de mettre la clé sous la porte parce qu'il ne peut plus en vivre lui aussi. Donc là, il y a aussi de quoi on hérite, comment on peut le porter, comment on peut continuer à lui donner du sens et à respecter ceux qui nous l'ont transmis. Et les trois enfants sont confrontés un peu différemment, mais chacun à ces questions-là, de quoi on hérite et qu'est-ce qu'on peut transmettre en le faisant vivre. Et c'est très beau de ce point de vue-là.
Et en fait, c'est de la fratrie, c'est celui qui a le mieux supporté le temps qui a passé. Parce qu'il n'est jamais parti de là. Il a toujours profité de cet endroit extraordinaire. Alors, il l'a vu changer, effectivement, c'est plus la même chose. Mais il a toujours été là. Les deux autres ont eu une carrière, ont eu des carrières différentes, tous les deux. Ils ont gravi les échelons. L'une est devenue une actrice renommée. L'autre a été universitaire. Et puis finalement, il a travaillé dans une boîte qu'il a mis à la porte sans autre forme de procès. Et ils sont les deux là désabusés.
Oui, mais alors de façon paradoxale, celui qui n'est jamais parti se demande s'il va pouvoir continuer à vivre. Et les deux qui sont partis sont contraints pour différentes raisons. Un, pour redémarrer autre chose qu'une vie de couple qui est en train de se terminer. Et elle, par rapport à sa carrière d'artiste, ils sont en train de devoir recréer quelque chose de neuf pour eux. Et c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire le retour dans le passé les oblige à réaffronter l'avenir autrement. Et on le verra dans la dernière partie du film. C'est très beau.
Alors justement, on va peut-être pas tout dire, parce qu'il se passe quelque chose dans le film. Ceux qui ont écouté la bande-annonce, ça leur a peut-être mis la puce à l'oreille, qui va les aider quelque part à mettre en perspective le futur de leur vie et à se relancer. Et c'est aussi, d'une certaine manière, un film d'actualité, puisqu'il aborde ce sujet. On va faire une première pause. C'était donc La Villa, de Robert Guédiguian, qui sera donné donc au cinéma L'ABC à Toulouse, entre autres le 12 décembre prochain, dans le cadre du Ciné-Parole, à 14h30 et 20h30. On redonnera les infos à la fin de l'émission. Tout de suite, une première pause musicale.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran de Vivante Église, c'est donc l'un des rendez-vous de Vivante Église, le premier vendredi de chaque mois, avec donc nos chroniqueurs Maison Cinéma, Louis-Marie Soler, producteur de N'oubliez pas l'ouvreuse, et Paul Diba, intervenant entre autres sur les questions de cinéma auprès des Cotopaïs, dont on a parlé d'ailleurs en partie cette semaine dans l'émission de mardi, et animant ou co-animant des retraites cinéma à l'abbaye d'Ancalca, abbaye bénédictine, dans un diocèse voisin puisqu'il s'agit du Tarn. Le deuxième film que nous avons choisi, c'est La Cour de Babel. Alors c'est donc dans la catégorie chef-d'œuvre humaniste, un film à avoir dans sa bibliothèque pour les longues soirées d'hiver, mais pas seulement, qui réjouit vraiment le cœur. Alors là, on va pas passer la bande-annonce, donc je propose peut-être qu'on commence par le présenter. C'est donc un documentaire français qui a été réalisé par Julie Bertuccelli, sorti en 2013. Elle a filmé une classe d'accueil, donc c'est le nom en fait des classes où sont accueillis des enfants d'origine étrangère récemment arrivés pour les mettre un peu à niveau en français mais pas que, et faire un peu la transition ou les aider dans leur scolarisation. En l'occurrence, ça se passe au collège de La Grange à Paris, de La Grange au Bel même plus précisément. C'est donc dans le 10e arrondissement. C'est vraiment filmé, enfin, j'allais dire au plus près, hein, la caméra est dans la classe. Il y a très peu de scènes extérieures. De temps en temps, la cour de récréation, il y a peut-être une ou deux sorties, une à la piscine. C'est un très beau film qui raconte, si je devais essayer de résumer, le chemin que font ces enfants, en fait, avec leur enseignante, qui est un chemin de départ, en fait, hein, plus qu'autre chose, d'une nouvelle vie. Comment vous compléteriez cette introduction, Paul ?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est donc un documentaire. La réalisatrice a passé un an dans cette classe, pas de façon permanente. Elle les a aidés à réaliser un film pour les faire rentrer dans la démarche, et si bien qu'elle fait partie du décor ou des meubles. Et ils s'expriment, ces jeunes, ces ados ou pré-ados, s'expriment avec une spontanéité et une vigueur aussi très, très dynamique. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Alors, des films sur l'école, il y en a eu beaucoup hein, dans le cinéma français. J'ai regardé, il y a au moins une cinquantaine de films qui traitent de l'école. Mais là, c'est de façon tout à fait particulière, puisque c'est un documentaire. Dans les derniers qui ont marqué le public, il y a Entre les murs de Laurent Cantet en 2008. Plus ancien, Au revoir les enfants. Un film qui a eu un grand succès aussi, c'est Les choristes. En 2004.
Il y avait eu un documentaire quand même, Être et avoir.
Oui. Alors, Être et avoir, aussi. C'était un documentaire qui...
Sur une classe unique, une classe...
2002.
En 2002, oui, voilà. C'est ça.
Et qui avait eu un énorme succès aussi, parce qu'en fait, on rentrait dans l'intimité, cette fois, c'était une classe maternelle.
Oui.
Multi, on va dire, niveau.
Non, oui. C'était une classe unique, c'est-à-dire qu'il y avait tous les niveaux.
C'est ça.
Une classe de campagne.
De classe de campagne, enfin jusqu'avant la sixième en tout cas.
C'est ça, c'est de la grande section, de la dernière année de maternelle à la dernière année de l'élémentaire.
Alors là, c'est pas tout à fait le même public, puisque c'est justement des jeunes qui viennent de l'étranger, et c'est dans la ville. L'autre chose, peut-être, si on doit introduire le propos, on va écouter un premier extrait. C'est un moment où l'enseignante, je ne retrouve plus son nom, mais vous allez m'aider.
Brigitte Servoni.
Brigitte Servoni, donc qui existe évidemment, hein, puisque c'est un documentaire, leur pose une question. Et on va écouter au moins deux réponses de ces jeunes.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous, le dernier jour que vous avez passé dans votre pays, avant de venir en France ? Daniel.
J'ai été en colère. Oui. J'ai été très, très triste.
De quitter la Biélorussie.
Oui, parce qu'il y avait un appartement où nous habitions. Où nous avons habité. C'était un très bel appartement. Nous avons pris, je ne sais pas, les 6-5 livres. C'est tout. Mm-hmm. Parce que je ne voulais pas... Je voulais que l'appartement... restait comme elle était avant. Je voulais pas prendre.
Le dernier jour, je suis fâché. Je suis pas triste, mais fâché. Très fâché. Je suis fâché et je tire les mots à ma mère et... c'est pas gentil.
Pourquoi tu étais fâché?
Juste. Parce que je Je dis rien à mes amis.
C'est pas bouge, qu'est-ce que c'est?
Que tu allais déménager. C'est
oui,
ça
oui,
tu
oui.
Tu n'as
oui.
prévenu personne. Tu n'as dit à personne.
Oui, oui, c'est ça. C'est
que
ça.
Tu allais déménager.
Alors, donc là, c'est donc deux élèves qui racontent comment ils ont dû quitter précipitamment. Donc, vous me disiez le premier, c'est parce qu'il y a la guerre dans son pays. Le deuxième, je me souviens plus trop. En tout cas, tout le film, presque tout le film, en fait, part de scènes comme ça où l'enseignante en fait leur pose des questions. Et ce qui est très frappant dans le film, enfin une des choses très frappantes, peut-être pour introduire vos commentaires. C'est que elle instaure en fait une grande liberté de dialogue entre les élèves et c'est rare, je trouve, enfin d'imaginer peut-être ou de voir des jeunes de cet âge-là se livrer avec autant de vérité et de simplicité, même les uns devant les autres en fait. Et ça touche donc évidemment le spectateur, mais c'est quelque chose de très frappant dans le film, je trouve.
Oui, c'est un peu le fond de la ligne pédagogique de ces classes-là et particulièrement bien servie par Brigitte Servoni, l'enseignante, où elle prend le temps d'écouter, y compris si c'est exprimé de façon maladroite, parce qu'ils ne maîtrisent pas bien le français, enfin pas tous, et ils se reconnaissent entre eux, ça crée une solidarité entre eux, c'est-à-dire que leur arrivée, le départ de chez eux, ça a été difficile. Et on sent bien que, même si c'est pour des raisons différentes, il y a quelque chose qui vibre chez eux. Ils se reconnaissent dans une forme de, osons, fraternité. Et en même temps, ils voient qu'ils ont tous des parcours différents. Et la maîtresse est là pour, ou l'enseignante est là pour dire « Et pourquoi t'étais triste ?» Et pourquoi ? Donc elle leur permet d'exprimer ce qu'ils ressentent. Et ça fait partie de... l'apprentissage en même temps des mots, du vocabulaire, dire ses sentiments, mais en même temps on voit que ça crée une classe un peu particulière.
C'est très moderne comme pédagogie en tout cas.
Ah oui,
on se dit que en l'occurrence c'est nécessaire parce que les situations sont un peu extrêmes, mais que on rêverait d'avoir eu des enseignants comme ça. Louis-Marie, juste.
Oui, alors ce qui est intéressant, ce qu'a souligné Paul Dima, c'est la classe a toujours été quelque chose qui a attiré le cinéma, parce que l'espace matériel, le lieu, et puis symbolique, c'est le groupe. Et ici, on voit ces jeunes adolescents, qui sont issus donc de différents pays du monde, et qui viennent spécifiquement dans cette classe pour apprendre le français. Ce qu'on ne verra jamais, parce qu'on est bien dans un collège, il ne faut pas l'oublier ça, c'est comment ça se passe pour eux quand ils sont dans leur classe aussi, parce qu'ils ne font pas qu'étudier le français, il faut qu'ils étudient les autres matières. Et on ne sait pas comment ça se passe avec leurs autres camarades de classe. On ne le sait que quand ils en parlent, eux, quand ils ont l'occasion de le faire ou quand ils le font de façon impromptue, comme ça, dans la conversation. C'est ça qui est intéressant, c'est de les voir. Paul a parlé de solidarité, c'est ça, ils vont grandir ensemble, grandir dans le sens d'accepter le fait qu'ils aient été déracinés de leur pays.
Alors peut-être on va écouter un autre extrait justement où il parle du regard que les autres portent sur eux. Peut-être qu'on peut se reconnaître aussi dans le regard qu'on peut porter sur des personnes issues de l'immigration, sur des étrangers. C'est peut-être pas, enfin sans vouloir faire la morale, hein, évidemment, je m'inclus dedans, c'est peut-être pas réservé à ces collégiens.
Il y a plein de gens qui parlent de la classe d'accueil, mais c'est pas très gentil, tu vois. Ils nous prennent comme si on était des... Comme, je donne un exemple, comme si nous on était des moustiques et eux ils étaient c'est comme si nous on était des pauvres, eux des stars. Vous voyez? Des riches. Mais ils nous prennent comme
de la classe. Méprise. C'est-à-dire que oui. Tu veux dire que.
Ils ont plus de valeur que nous.
Est-ce que c'est un problème qu'il faut régler entre vous? Est-ce que quelqu'un a une idée comment régler ce problème?
C'est un problème qui ne s'est pas réglé entre nous. Il n'y a pas besoin de classe pour ça.
Mm-hmm. Alors, comment est-ce que tu proposes de... Qu'est-ce que tu proposes
de parler et résoudre le problème.
Donc, ça, c'est une question de regard. Alors, du coup, on ne voit pas le regard des autres, mais enfin, c'est
subtil. Mais on en parle.
On en parle. Évidemment, du coup, nous, spectateurs, on est aussi pris un peu à témoin. C'est aussi un des propos du film, non ? C'est, on a l'impression que c'est une des intentions profondes du film.
Oui, oui, oui. Et ce qui est adroit aussi, c'est de la part de Julie Bertuccelli, la réalisatrice, c'est de s'être cantonnée donc, à cette classe. C'est un film choral au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entretien individuel pour chaque enfant. Les seuls moments où il y a des entretiens avec les parents ou les responsables des enfants, c'est quand ceux-ci viennent à l'invitation de l'enseignante pour recevoir le bulletin, pour faire un point sur leur scolarité. C'est tout. C'est-à-dire qu'on ne sait, on n'en sait pas plus des enfants ce qu'on envoie dans cette classe. Et il y a régulièrement pratiquement le même plan de coupe. Quand on sort de la classe, c'est pour voir depuis la classe la cour de récréation.
On voit juste l'arbre qui passe du printemps à l'automne, à l'hiver.
Voilà. Et on les voit, et il n'y a qu'à la fin du film où le plan de coupe, il est en rez-de-chaussée. C'est-à-dire qu'on rentre dans la cour à ce moment-là, au moment où eux aussi vont rentrer. On descend, on va dans cette cour. C'est-à-dire qu'on rentre dans le collège, quoi. Mais là, on était juste dans cet espace un peu protégé.
Alors moi j'ai quand même une question, c'est pourquoi est-ce que vous avez, pour vous, pourquoi est-ce que c'est un chef-d'œuvre ? Puisque c'était quand même la commande au début de l'année, on peut se dire c'est un beau documentaire, c'est vrai qu'il est très à voir, on se dit, pour parler d'un autre film, on aimerait l'avoir dans sa DVD Tech. Celui-là, pourquoi, Paul ?
Parce que ça fait partie des films documentaires qui ont à la fois un grand respect pour ce qu'ils voient, une intelligence de ce qui est montré. Et en même temps, ce n'est pas un documentaire qui veut véhiculer une idée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours, il n'y a pas de commentaire en voix off, il n'y a pas de choses à démontrer. Mais la qualité du regard qui est porté, le fait qu'on sent bien qu'il y a une relation de confiance entre ceux qui sont filmés et celle qui filme. D'ailleurs, elle a choisi de filmer à 3 personnes seulement, pour ne pas peser sur la réalité qui est observée ou qui est filmée. Et on sent bien que... Et ça, c'est un exercice difficile. C'est-à-dire que un bon documentaire doit te permettre de dire, pour ceux qui sont filmés, oui, c'est bien nous. Et plus encore de dire, ah oui, mais ça, on ne l'avait pas si bien vu que ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la révélation aussi de ce que les mots, les images spontanées peuvent dire. Et ça, c'est très fort.
Alors, moi, il y a autre chose qui m'a frappé. C'est peut-être que ça peut introduire votre propos, Louis-Marie, c'est que y a de fait, il y a beaucoup d'amour, en fait, entre ces collégiens. C'est impressionnant pour des collégiens. Ils s'écoutent, ils se respectent, ils expriment leur tendresse. C'est pas pour autant une espèce d'étalage affectif excessif. Et en effet, sans vouloir tout ramener à l'évangile, c'est vrai qu'il y a un propos qui est un peu évangélique, c'est qu'en fait, ils sont tous fragiles quand ils arrivent. Ils s'avouent quelque part un peu cette fragilité. Et de cet aveu, en fait, sort une grande charité. Et je trouve que c'est plein de force et plein de vie, et surtout plein d'espérance, en fait, sur une jeunesse qu'on regarde peut-être parfois un peu différemment, particulièrement celle-là.
Et oui, c'est ce sur quoi a voulu insister la réalisatrice. En fait, son objectif, c'était je ne vais pas parler à sa place, mais justement de montrer comment ces enfants arrivent à s'aimer tout en étant plutôt circonspects quand ils commencent. Quand ils arrivent, ils se demandent ce qu'ils viennent faire là. Ça commence par leur enseignante, leur professeur leur demande d'écrire au tableau dans leur langue d'origine, comment d'abord de le dire et après de l'écrire, comment on dit bonjour.
Ils sont plutôt vifs les uns avec les autres.
Oui, parce que
ils marquent
leur territoire. Et ils disent non, mais moi c'est comme ça. On dit mais non, parce qu'il y en a. Il y a quand même quelques similitudes pour certains au niveau de la langue, au niveau de l'écriture. Et puis ça discute beaucoup. Et puis il y en a une qui dit ah ben nous ça peut pas s'écrire. Le Wolof ça s'écrit pas. Ça s'écrit pas. Ça se parle, mais ça s'écrit pas. Et on le dit comme ça. Alors, il y a tout ça qui fait que, petit à petit, ça va se construire, et c'est pas parce qu'on se respecte qu'on peut pas se chamailler. Enfin, quand je dis chamailler, c'est qu'on peut pas discuter, qu'on peut pas dialoguer, c'est qu'on peut pas dire ce qu'on pense, et on peut s'affronter, c'est pas grave. La petite Mariam, celle qu'on voit au début, et celle qui va être ici aussi à un moment, c'est une petite Libyenne, hein, qui va devoir partir avant la fin de l'année parce que ses parents sont demandeurs d'asile et qu'on leur a trouvé un logement à Verdun, donc va falloir qu'ils quittent Paris. Eh bien, elle lâche jamais le morceau, celle-ci. Jamais. Elle dit non, moi, je suis pas d'accord. Et ça se crispe un peu avec ses camarades qui viennent de pays d'Afrique noire.
Alors, si je dois pas lâcher le morceau non plus, pourquoi est-ce que pour vous c'est un chef-d'œuvre, Louis-Marie ?
Ben pour tout ça, pour toute l'intelligence de la réalisatrice, si on s'en tient au point de vue technique. Et à ce qu'a voulu faire cette réalisatrice, eh bien, elle a fait quelque chose qui est dans le genre du documentaire parfait. C'est-à-dire que, à mon sens, c'est-à-dire le documentaire, il faut bien penser qu'un documentaire, c'est pas un reportage. Donc, on demande pas la même chose à un documentaire, un reportage. Elle donne pas son avis, mais son point de vue, il est avec la caméra, la façon dont elle filme, la façon dont elle les fait parler, pourquoi elle a choisi ce dispositif. Elle aurait pu choisir un autre dispositif, elle aurait pu aller les voir, les trouver, leur demander dans leur lieu de où ils vivent. Elle aurait pu tirer les larmes, peut-être aussi, en voyant qu'un vit dans un tout petit appartement, un autre dans un centre d'accueil. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est les rapports de ces jeunes gens. Et on le voit très bien.
Voilà, un exemple d'une belle fraternité, en tout cas, entre jeunes qui parlent, et même un peu plus que ça, hein, qui bouleverse. C'était donc La Cour de Babel, rappelez-nous le nom de la réalisatrice.
Julie Bertuccelli, qui est la fille de Jean-Louis, le grand réalisateur français.
On fait une deuxième pause, et puis après on va parler de Des Hommes et des Dieux, puisque c'est le troisième choix de cette émission de ce matin. Cette émission, donc le grand écran de Vivante Église, émission cinéma, donc le premier vendredi de chaque mois, avec autour du plateau, si par hasard vous nous rejoignez en cours de route, pour rappel, Louis-Marie Soler, producteur d'une émission, elle, c'est vraiment cinéma, sur notre antenne, N'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi soir à 19h, et Paul Dima, bon connaisseur du 7e art, et qui organise entre autres, qui co-anime pardon, des retraites cinéma à l'abbaye d'Ankelka. Il nous en parlera peut-être à l'occasion d'une prochaine émission, parce que c'est quand même intriguant une retraite cinéma dans une abbaye bénédictine. Le troisième film que vous avez choisi aujourd'hui, donc c'est toujours dans la catégorie chef-d'œuvre, c'est, alors je pense qu'un certain nombre d'auditeurs l'ont vu, mais peut-être pas tous, et en tout cas ça fait partie des films qu'il est bon d'avoir dans sa bibliothèque peut-être pour le voir et le revoir, c'est « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois. Ce film est inspiré donc de la vie, ou plutôt de la fin de vie des moines de Tibirine en Algérie, décédé donc assassiné en 1996. C'est un film qui a obtenu donc le grand prix du jury, je vais y arriver, au Festival de Cannes 2010, et puis derrière le César du meilleur film. Voilà, peut-être le mieux c'est d'écouter, on va écouter la bande-annonce de ce film et puis après on va se lancer dans l'aventure de ce commentaire, de ce chef-d'œuvre.
Voici la nuit, l'immense nuit des origines, et rien n'existe hormis l'amour qui se dessine. En ses parents le sable et l'eau, Dieu préparait comme un...
Hier, ils ont été encore un imam dans la rue.
Votre monastère doit avoir une protection militaire. Les atrocités vont recommencer.
Ma décision est prise. Je refuse.
Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment?
C'est un risque.
Toi, t'as déjà été amoureux?
Oui, plusieurs fois, oui. Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Alors j'ai répondu à cet amour-là.
Parce que ce village, elle a grandi avec le monastère. Pourquoi vous allez partir?
Nous sommes comme des oiseaux sur une branche. Nous ne savons pas si nous partir.
Les oiseaux, c'est nous. La branche, c'est vous.
Et encore moins de l'armée. Je crains pas la mort non plus, je suis un homme libre.
Je suis un homme libre, je me souviens bien de cette réplique. Voilà, alors peut-être donc je l'ai introduit, je vous laisse continuer. C'est en tout cas une histoire au-delà du film en fait qui a profondément marqué la France, hein, le témoignage de ces hommes, et un film qui a aussi beaucoup marqué puisqu'il a eu un succès inattendu. On peut peut-être commencer par ça. Paul Dima, vous me racontiez en préparant l'émission le silence qui a suivi sa projection au Festival de Cannes.
Oui, donc il y avait toute l'équipe des acteurs et du film, réalisateur compris, et à la fin de la projection, un grand silence et inquiétude du réalisateur et des acteurs en disant « mais on s'est planté, là on a fait un truc qui passe pas, ils disent rien ». Et puis au bout d'une minute de silence, un tonnerre d'applaudissements et une standing ovation qui a duré plusieurs minutes. Ils se sont dit « là quelque chose est passé ».
Et c'est un film donc, qui a connu aussi après un grand succès en France, et pas seulement en France, aussi à l'étranger. Et j'ai souvenir, moi, des critiques d'un certain nombre de personnes qui s'étonnaient que ce film ait pu avoir autant de succès, parce que c'est bon, il y a quand même un caractère spirituel réel. Et voilà, on entend souvent dire que les Français sont indifférents à la chose religieuse, et ce film en est la preuve que non.
Mais la preuve que non, dans la mesure où tout le monde peut se retrouver, qu'on soit croyant ou pas. Dans ce qui se passe dans ce film, on pourrait être concerné. La question que se posent ces moines, elle est universelle, quelles que soient les croyances qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ou on s'en va? On abandonne ces gens ou on continue notre mission? C'est ça, c'est un questionnement qui... C'est une réflexion métaphysique qui peut s'appliquer à... que tout le monde peut se poser, à laquelle tout le monde peut réfléchir.
Il y a aussi un passage dans le film où on entend l'un des frères, donc en l'occurrence c'est frère Luc, qui est joué par Michael Lonsdale, enfin on voit et on entend, avoir un dialogue avec une jeune fille où il lui parle d'amour. Peut-être si vous pouvez raconter ce passage, Louis-Marie Soler, parce que ça peut être... c'est une manière aussi d'introduire le spectateur dans le mystère de ce que vivent ces moines. C'est...
Paul Dima est plus à même de le faire que moi, parce qu'il connaît les petits détours qui ont amené à la réalisation et oui, au alors, filmage de, cette scène.
Dans les secrets de tournage, il y a ça.
Racontez déjà peut-être la scène.
C'est une scène en dialogue avec deux personnages. Le frère Luc, un vieux frère joué par Michael Lonsdale, et une jeune femme, une jeune qui travaille aussi au monastère. Et alors cette scène-là n'était pas du tout prévue. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dans l'écriture du scénario du film. Et un jour, Michael Lonsdale dit... Ben moi, je verrais bien une scène où on parle d'amour avec cette jeune-là. Xavier Beauvois dit, bon, oui.
Cette jeune qui n'était pas une actrice, en fait, qui était une jeune du village ou c'est...
Elle fait partie du casting du film, quand même. On la voit dans le film, puisqu'on voit les gens du village. Mais il n'était pas prévu qu'elle tourne de scène, qu'il y ait une scène comme ça, où elle est ce dialogue entre le frère Luc et... Frère Luc qui est aussi le moine médecin.
Le médecin qui soigne tous ceux qui viennent et qui a une grande notoriété dans le village et alentour. Et donc Xavier Beauvois dit t'es prêt ou vous êtes prêt? Oui, ben on y va. Et la première prise a été la bonne, il n'y a eu qu'une prise.
Et donc, quelle est racontée la scène peut-être?
Alors, la scène, c'est la fille raconte que son père a des projets pour elle, mais que le copain qu'on lui destine comme mari, elle ressent rien, et se confie à ce vieux moine. Et puis, après, il dit et toi, t'as été amoureux? Il dit oui, j'ai été amoureux
plusieurs
fois. Et puis un jour, j'ai rencontré un amour plus grand encore, mais ça fait longtemps, hein, ça fait 60 ans. Et puis j'ai suivi cet amour-là.
Voilà, donc évidemment, c'est une manière aussi de prendre. De prendre le spectateur par la main pour l'introduire dans ce grand mystère. Hein.
C'est... Oui, tout à fait.
Parce que dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'occasions où on les voit chanter à la liturgie, mais il y a peu de moments en fait où ils témoignent quelque part de leur foi. Il y a un moment juste où j'ai souvenir d'une autre scène où l'un des frères, je crois que c'est toujours frère Luc, en fait embrasse comme ça une icône du Christ avant qu'il soit avant qu'ils vivent leur martyre.
Alors, ils témoignent de leur foi au cours de leur rencontre de communauté, où ils discutent pourquoi partir, rester, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que c'est qu'être fidèle à l'engagement qu'on a pris. Et là, bien sûr, leur vocation monastique est directement compromise dans ce rester ou partir.
Explicité, oui. Je propose qu'on écoute un deuxième extrait, il est un peu long donc peut-être qu'on le coupera, c'est pas la fin du film, hein. C'est un moment où des terroristes, donc je crois que c'est le GIA, hein, le GIA débarque dans leur monastère.
Allez! Au revoir.
Au revoir, Christian.
Qu'est-ce que vous voulez? C'est une maison de paix, ici.
C'est vous, Christian?
Oui. On n'entre pas ici avec des armes. Si vous voulez nous parler, vous devez les laisser à l'extérieur du monastère. S'il vous plaît.
Je m'en sépare jamais.
Alors suivez-moi, nous allons discuter dehors.
J'ai besoin des toubibs. Ils doivent venir avec nous.
C'est impossible.
J'ai trois blessés qu'il doit soigner à une heure de route.
Il ne peut pas partir d'ici. Il est malade, il est vieux, il a des crises d'asthme. Frère Luc a toujours soigné les blessés qui viennent au dispensaire. Il soigne indifféremment tous ceux qui ont besoin de lui. Ils se fichent de leur identité. Nous continuerons à faire de la sorte, mais rien de plus.
Alors vous allez nous... Voilà, on coupe. En tout cas, la suite de cela, c'est que, alors que les terroristes donc, du GIA quittent le monastère, après cette explication, ils lui disent « Savez-vous que c'est la nuit du prince de la paix ?» Et en fait, ils sont rentrés dans le monastère la nuit de Noël. C'est une scène qui explicite peut-être la fin du film et qui, en tout cas, dit quelque chose de l'intention profonde de la présence de ses frères. Parce que d'aucuns ont pu dire que ses frères sont restés pour être martyrs, mais ils ne sont pas restés d'abord pour être martyrs, ils sont restés par amour.
Ils sont restés par amour, et il y a plusieurs scènes du film qui rappellent ça. Il y a un frère qui dit à un moment, mais je ne comprends plus, qu'est-ce qu'on fait là, ça n'a plus de sens pour moi et tout. Et le père Abbé Christian, joué par Lambert Wilson, dit, mais... ta vie, tu l'as déjà donnée quand tu es rentré chez les moines. C'est fou d'être moine. Et voilà. Et il lui permet de relire toute son histoire en disant « Mais c'est dans la fidélité de ton engagement. » Et dans cette scène, avec l'irruption du GIA, ils ont un dialogue quand le frère Christian, le père Christian, dit au chef du groupe « C'est la nuit du prince de la paix ». Ils récitent ensemble le Coran qui en parle. Et à la fin, le chef du groupe armé dit « Je ne savais pas, je m'excuse ». Et il lui tend la main. Et alors, donner la main dans un pays du Maghreb, ça n'a rien à voir avec se serrer la main comme on fait ici. C'est un pacte qui engage. Et le frère Christian a une hésitation. Il lui tend la main, il se serre la main... en se regardant les yeux.
C'est
dans
un pacte,
les
c'est-à-dire c'est un vrai signe de fraternité, vous voulez dire ?
C'est, voilà, c'est un lien très fort de se donner la main. C'est une alliance, c'est plus que bonjour. C'est tout à fait autre chose.
Alors, Christophe me fait signe en régie que c'est bientôt la fin de l'émission, donc on n'aura pas le temps de diffuser le dernier extrait que je voulais passer, mais peut-être, même question, pourquoi est-ce que c'est un chef-d'œuvre pour vous, Louis-Marie ? Qu'est-ce qui vous a... ou qu'est-ce que le producteur d'émissions cinéma peut dire qui justifie qu'on l'ait chez soi dans la catégorie chef-d'œuvre ?
C'est le choix qu'a fait Xavier Beauvois d'avancer dans un double registre, c'est-à-dire tout ce qui relève de la métaphysique, du questionnement philosophique, parlons au sens large, c'est-à-dire que ces religieux qui sont magnifiquement interprétés, il y a une troupe d'acteurs fabuleuse, on parle de Lambert Wilson et de Michael Lonsdale, mais les autres autour d'eux sont extraordinaires. Alors, je disais qu'on réfléchit sur la notion de courage, l'héroïsme, on va pas tout passer en revue, le don de soi, la résistance, tout y est, quoi. Et puis aussi, le film de genre, finalement. C'est quoi ? C'est il y a les échos d'un western. Ils sont dans une abbaye assiégée. Et c'est ça. C'est entre les deux. On peut aller chercher des références aux grands cinéastes. Et on peut parler de John Ford. John Ford aussi a parlé de ça. John Ford, célèbre pour les westerns. Ben là, on y est. On est là-dedans. On est tout à la fois. C'est du cinéma au sens propre et large du terme. C'est ça, des hommes et des dieux.
Paul Dima, pourquoi est-ce que c'est un chef-d'œuvre pour vous ?
Parce qu'il y a une triple fidélité dans ce film. Il y a une part d'inventivité importante aussi. Une fidélité à l'histoire, l'épisode qu'on dit est réel, c'est pas inventé, c'est vrai. Il y a d'autres scènes qui sont inventées pour faire juste, c'est-à-dire que sur... une heure et demie, je ne sais plus combien dure le film, on ne peut pas raconter 2 ans d'une lente évolution où les frères vont prendre la parole et dire en liberté, est-ce qu'on choisit de rester ou de partir ? Ils choisissent de rester. Et là, il y a le respect aussi de leur démarche religieuse et de ce qui fonde cette démarche. On les voit prier, on entendait le chant au début. Voici la nuit, la longue nuit des solitudes. Eh ben, ils traversent ça aussi. C'est-à-dire qu'on éprouve avec eux ce passage qui fait qu'ils acceptent le don qu'ils vont faire de leur vie. Même s'ils ne le souhaitent pas, ils ne veulent pas être des martyrs.
Voilà, très beau film en tout cas à voir. Peut-être on a été un peu plus court. À voir, et puis il y a aussi des écrits à lire. Hein. Il y a des écrits de Christian de Chergé, donc, qui est joué là par Lambert Wilson, qui est donc le prieur de cette communauté monastique de cisterciens, et de Frère Luc aussi, a écrit aussi un certain nombre de livres. Peut-être, je finirai juste par, non pas une anecdote, mais il y a un des frères qui échappe en fait à l'assassinat qui a lieu donc à la fin du film. Et ce frère se cache sous un lit, et savez-vous que ce frère en fait est dans un monastère cistercien, lui il est au Maroc, et il est je crois toujours vivant. En tout cas je me souviens que dans la rédaction où je travaillais à l'époque, il y a un journaliste qui l'avait dégoté, qui était allé l'interroger, et c'était voilà, une manière de bien faire comprendre que tout ça est une histoire vraie. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de Vivante Église pour cette émission cinéma, super émission qui cherche ses marques mais qui les trouve déjà avec assurance. Cette émission a été réalisée par... et je rappelle, prochain Ciné-Parole, 12 décembre, 14h30, 20h30, au cinéma L'ABC, sur le film La Villa. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.